Je sais pas si vous le savez, messieurs, mais moi, je suis déjà en train d'enregistrer. Le podcast vient de commencer. Okay, c'est le temps d'une bière. On est en bonne compagnie. On est au Festival des brasseurs et des artisans de Québec sous la houlette de gens de grande grâce, de grande sympathie, comme Jean-Christophe qui est en train d'organiser son cellulaire et qui nous envoie un petit peu bête de la main. Je suis en bonne compagnie avec des comparses qui sont maintenant mes amis et que je viens de rencontrer. Je pense que l'occasion se présente pour un bon tour de table bien en règle. Je commence à ma gauche avec toi.
Marc-Antoine. De microbrasserie La Souche. Un amateur de bière de longue date et directeur des ventes à La Souche depuis maintenant un bon 6 ans et 10 ans à l'emploi de la microbrasserie La Souche.
La Souche, beaucoup de plaisir. Clairement, c'est une bonne souche. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de jeux de mots par rapport à ça. Non, mais j'ai goûté à une coupe de vos bières puis c'est vraiment des produits excellents, là. Vous avez, je pense, la frutillata,
frutillata que vous avez goûté.
Ouais, ça c'était dans un autre épisode. Ouais, c'était bon, là. C'était bon. Puis toi, clairement, t'as du fun à faire ce que tu fais parce que cette bière-là, en particulier, est très bonne.
Elle est très bonne. Jesse, t'as-tu du fun à faire ça?
Approche-toi autant du micro que tu peux, hein. Ici, on a Mathieu.
Mathieu Pelletier.
Approche-toi du micro un peu.
Mathieu Pelletier
avec Nano Cinco.
Exactement, de la microbrasserie Nano Cinco. Peut-être la plus jeune brasserie de Québec.
Ah oui, jeune dans quel sens?
Ouvert le 22 décembre 2022.
Le temps passe si vite. Hier encore, j'avais 20 ans.
C'est qu'il doit en avoir au moins 6 depuis.
Mauvaise langue.
Mauvaise langue.
Laisse-moi ma plus jeune brasserie à un moment. Peut-être qu'un jour, ça sera la plus vieille. Mon moment de gloire. Mais ouais, c'est ça. Un vieux brasseur amateur.
Ah oui, OK.
Passionné.
Ouais. Ben, c'est comme ça que ça commence souvent.
Exactement. Puis que la pandémie a donné le temps de créer son projet brassicole avec ses amis. Et après moult travaux, on a ouvert le 22 décembre, donc il y a 7 mois. Et voilà, c'est ça, une belle brasserie, Limoilou, 3e rue, 3e avenue. Une belle production, une taproom, des bières de geek, sans concession.
Houblonné. Sans concession, je sens qu'on va revenir sur ce thème-là plus tard.
Très houblonné, des choix de malt particuliers. Puis on est open, c'est-à-dire que pour nous, des smoothies, c'est de la bière. Pour nous, des stouts avec du lactose, c'est de la bière. Pour nous, tout est de la bière.
Ah, vous n'avez pas froid aux oreilles, vous n'avez pas froid aux yeux, vous êtes capable de vous engager dans n'importe quel projet.
Des vieux jeunes,
c'est pas pire ça. Moi, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu une vieille âme dans le corps d'un enfant qui s'excite ridiculement pour des riens. Et au bout de la table, on a...
Jean Lampron de la microbrasserie Linox.
Linox qui...
La plus vieille microbrasserie à Québec. Il faut le dire. Donc, probablement le plus vieux brasseur à Québec aussi.
Serais-tu toi-même un des vétérans de notre estimé tablé?
Ben, je pense que oui.
Il y a plus d'âge, je pense, dans ta barbe qui est très présente.
Ça, la barbe parle.
Il a peut-être brassé avant que tu naisses.
C'est possible.
T'as quel âge exactement?
Ah, peux-tu dire ça?
Ben oui, on peut le dire.
Approche-toi du micro.
Ben oui,
Approche-toi, exactement.
56. Ouais.
Je suis brasseur de la plus jeune brasserie de Québec, j'ai 42.
Bon.
Tu sais, l'écart n'est pas non plus...
C'est un podcast qui rapproche les gens de générations différentes.
Mais oui, on est des vieux boomers, pareil, on brasse.
Tu te considères comme un boomer? Vraiment?
Non, c'est une joke.
Oh, oui, je comprends.
T'es encore pris d'un X.
Alors là, on est en bonne compagnie au Festival des brasseurs et artisans de Québec. Qu'est-ce qui vous amène ici dans ce festival? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et surtout que vous avez du plaisir en dehors de mon auguste compagnie qui, elle, n'est malheureusement qu'un bonus?
Je peux peut-être commencer. Je fais partie de l'organisation depuis le début. Nous, on voulait vraiment avoir une autre option de festival à Québec. Il y en avait déjà un qui était présent. C'est juste qu'on voulait de quoi qui était plus à valeur humaine pour les micros de Québec. Puis ça n'empêche pas qu'on trouvait que la ville avait assez de place pour avoir plusieurs événements brassicoles. Mais nous, notre vision était vraiment plus d'avoir de quoi qui était « on veut avoir du fun entre nous autres ».
Ça ne tentait pas d'être... La notion commerciale était moins là, en fait, au départ. C'était moins ça le but de l'exercice. En partant, on a mis aussi les artisans de Québec dans l'équation parce qu'on trouvait que c'était un tout. On trouve que on est un milieu qui est très artistique. On aime ça essayer des choses, faire des tests. Puis on trouvait que ça se mariait bien de pouvoir tout jumeler ça ensemble, de des gens qui ont une passion d'essayer des choses dans la vie de Québec. Fait que le point de départ était vraiment ça. Puis moi, ben, c'est ça qui m'a attiré dans le projet au départ.
Il faut le dire, on est dans un endroit qui, somme toute, assez spectaculaire pour un festival de la bière. En général, on s'entend que l'environnement est intéressant, mais ici, on est dans le domaine de Mazerais. On a un parc. Il y a de la place pour les enfants, pour la famille. C'est beau. Il y a des marais. Il y a littéralement un parc et des jeux. Et puis, on a un bâtiment centenaire qui, sans doute, a dû appartenir à un moment donné à l'élite de l'élite, soit de l'Angleterre ou de la Nouvelle-France. Et puis, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, tu as une grande tente qui rassemble l'ensemble des microbrasseries de la région. Puis, ce que je constate, c'est que contrairement à des festivals de la bière, des festivals au pluriel, j'imagine, des trucs de bière, il n'y a pas tellement d'artisans que tout le monde est super en compétition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'achalandage que ça interdit, mettons, l'interaction de discussion normale entre deux voisins en temps d'une même tente.
Puis c'est déjà un parc qui est rassembleur à la base. Hein.
Ouais, ouais, ouais,
c'est un parc qui fait partie de la vie de Limoilou, là, la vie du quartier, comme la Souche est de Limoilou. Nano, on est de Limoilou aussi. Puis cette proximité avec déjà un endroit rassembleur, puis notre public, tu sais, ça n'a pas de prix. Là. Ouais. C'est le fun, là. Et puis c'est comme tu dis, tu sais, il n'y a pas d'animosité ou de choses de dire que on est dans le plus gros festival de bière de Québec, tu sais, on va tout casser. Et puis
oh, ouais, c'est ça, c'est pas la compétition.
On rencontre notre public et puis on rencontre les autres brasseries dans un cadre de rencontre, tu sais, à la base.
C'est toi qui t'amènes ici, là, le concept de la rencontre.
Ouais, ben c'est ça, mais je pense que la bière, c'est une rencontre. Le temps d'une bière, non?
Ah, mon Dieu, que tu me parles, ça va directement à mon cœur. J'espère que nos auditeurs comprennent l'importance de prendre le temps d'une bière. Moi, ça a toujours été simple. Quand j'ai pensé à la création d'un podcast, c'était on va prendre le temps d'une bière pour jaser, dans le sens que l'intoxication créée par la bière enlevait des inhibitions puis permettait plus d'intimité naturelle entre deux étrangers. Puis c'est devenu d'autre chose. Mais je pense que ça reste exactement ce que tu viens de dire, dans le sens que tu prends une ou deux consommations de façon modérée, puis d'un coup, tu as moins d'hostilité normale, intrinsèque envers la personne que tu connais pas.
Ben, tu sais, quand on dit on va prendre une bière, c'est tellement large. Mm. Hey, ça va pas, mon chum? Viens, on va aller prendre une bière. Mm. T'es content? Yes! On va prendre une bière.
C'est ça, ouais. Ça va mal, on prend une bière, ça va bien, on prend une bière.
Oui. C'est, tu prends une bière, c'est rassembleur.
Ouais.
Puis, je pense que ça a toujours été ça pour avoir vu aller le marché, puis l'avoir vu évoluer un peu. Au niveau de la microbrasserie, il n'y a pas de... Il y en a un peu, mais c'est une confrérie. C'est tout le monde, tout le monde fait de la bière, tout le monde fait de la bonne bière, surtout aujourd'hui.
Oui,
exact.
Puis tout le monde, on est bien plus à l'entraide qu'à la compétition.
Le marché,
ça a toujours été.
Le marché est tellement gros qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun a sa cible et puis c'est ça. Donc, tout se partage. Là. On se marche sur certains niveaux de couches de clients, on va dire, mais la masse est là. Hein. La masse est là pour le partage.
Le marché pour les microbrasseries du Québec il est quand même plus condensé qu'il ne l'a jamais été avant. Je ne veux pas, mais c'est étonnant de voir un milieu que tu pourrais autant avoir de compétition, il y a autant de joueurs, on est au-dessus de 300, là, on s'entend. Là.
324.
Exact. Puis, peut-être 325 de même. Tu sais. Puis, d'avoir autant d'entraide, tu sais, on peut être des microbrasseries que oui, on va avoir un peu une lutte pour avoir son espace, pour avoir le CSP à côté, le restaurant qu'on aime à côté de chez nous. Mais en même temps, je vais recevoir un call de cette microbrasserie-là qui va me dire « Il manque un top de canne, il me manque des kegs, il me manque des grains. » J'ai eu un problème avec un fournisseur de paiement, de la nourriture, n'importe quoi, un équipement brassicole, peux-tu m'aider, t'as-tu un Q, la RAGJ c'est compliqué, je comprends pas, aide-moi, tel comme... On est tout le temps là pour s'aider, puis c'est vraiment une des choses qui fait que c'est vraiment un beau milieu dans lequel évoluer.
Fait que ça nous amène au thème de la collaboration. Là. Moi, je vois deux tendances vraiment opposées, puis c'est là que je veux vraiment votre opinion. Je vois que c'est l'inflation, c'est l'après-COVID, tout est plus cher. J'ai l'impression d'un marché vraiment saturé, puis je peux me tromper. 324 permis d'alcool. D'un autre côté, j'entends des discours comme le tien, dans lequel tu me dis, mais nous, on aide les autres microbrasseries quand on peut. Tu sais, je me demande, vous, là, c'est quoi votre expérience? Est-ce que c'est pas mal dans ce sens-là?
C'est sûr qu'il y a un marché, si on voit le nombre de microbrasseries, comment ça a explosé les dernières années, le marché a une capacité à absorber tout ça. À ce moment-là, il faut qu'il arrête d'en pousser. On aura pas assez de buveurs pour ce qu'on produit de bière.
Mettons qu'on se rend à 500 permis de microbrasserie, ça pourrait être un problème.
Il y a une différence entre des permis de brassage qui sont pour des brewpubs dans des régions puis des permis de brassage qui sont pour des usines la tablette aussi.
Ce n'est pas les mêmes permis. Hein.
C'est deux permis. C'est un permis artisanal et un permis de producteur industriel. Mais... Puis on en a vu pousser des microbrasseries partout à travers le Québec. Mais ces modèles de microbrasseries-là, ils sont, comme je parlais, je me souviens plus avec qui tantôt, ils sont viables. Si tu es capable de rayonner localement puis d'attacher ta clientèle locale, oui, c'est viable. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand tu t'attaques au marché de la tablette. Parce que là, on est beaucoup, là.
Là, on est dans beaucoup. Les épiceries, on est des gros centres de distribution, dans la canette, dans le canage. Exactement.
Ouais, quand tu es rendu là, ben là, c'est un autre game. Fait que c'est il y a une question de volume. À un moment donné, tu peux être compétitif, tu peux embarquer là-dedans, mais ça va te prendre la capacité de volume pour embarquer dedans.
Moi, ce que j'ai entendu des quelques brasseurs que j'ai reçus sur mon show, je pense que j'ai eu cette discussion-là peut-être 4 ou 5 fois, c'était le problème des microbrasseries au Québec aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'était en 2022, là, quand j'ai fait le show, c'était... Il y a beaucoup de monde qui s'en vont s'attaquer à l'échelle provinciale avant d'avoir saturé le marché municipal. Puis ça, c'était avec la présupposition que une microbrasserie qui a du succès est d'abord et avant tout une brasserie locale.
Oui, oui, je suis d'accord avec ça.
Ouais?
Oui? Oui, rayonne localement, premièrement.
Penses-tu qu'il y a trop de gens, qu'il y a trop de microbrasseries qui ont trop d'ambition trop tôt?
Mais je pense que c'est on pourrait retourner la question. C'est que c'est pas vraiment le fait d'avoir de l'ambition trop tôt. C'est que ouvrir une microbrasserie en ce moment, ça demande beaucoup d'investissement. Donc il y a tellement d'investissement sur le départ que t'as pas le choix de rayonner national et local. Il faut que tu vendes. Il faut que tu vendes pour payer ton système à 500 000, dans les rénovations.
C'est de l'argent, là.
T'ouvres une micro, là, ça coûte 2 millions.
Sérieux?
Ça coûte...
Là, on est à Québec.
Ça, là, on est à Québec, là.
Ça, c'est le benchmark, c'est le baseline de la ville de Québec.
Pas la Québec, la ville de Québec. Au Québec.
Ça, c'est aussi ton expérience.
Au Québec, ça coûte ça.
Oui, si
Donc, si tu veux rentabiliser cet argent-là, t'as pas le choix de faire de la tablette, là. Et puis, mais heureusement et malheureusement, on va jamais arrêter le monde de vouloir ouvrir des micros. Tout le monde est passionné et puis c'est un marché ouvert. Donc, à la fin, ce qui va rester ou ce qui restera, c'est juste des passionnés qui ont trouvé leur créneau, puis qui ont gadgé leurs produits sur la qualité. En gros, c'est on assiste en ce moment à un peu à un écrémage.
Mais il y a aussi la qualité, mais il y a aussi si tu as fait les bons moves.
Voilà, ça.
Et on s'entend qu'il y a quelqu'un qui peut faire de la méga qualité.
Ça serait quoi un mauvais move?
Ben, grossir trop vite, c'en est une. Surtout en ce moment, tu n'avais pas prévu les taux d'intérêt mal. Tu peux avoir des super bons produits, mais tu fais une mauvaise mise en marché, tu n'as pas de force de vente, tu es mal placé, c'est sûr que ça part mal en partant.
Ah, c'est sûr qu'il y a
Il y a beaucoup d'enjeux.
Il y a beaucoup d'enjeux connexes.
C'est de plus en plus compliqué. Ouais, une nouvelle brasserie qui commence et qui veut réussir, ça prend pas juste une chose pour réussir. Non. Ça en prend deux, et plus.
Elle peut pas être juste bonne.
Non. Ça, c'est... Non, mais même juste très bonne n'est peut-être pas suffisant.
Ouais, ouais.
Ça prend plus que ça, parce que très bonne une fois, puis après ça, ça prend de la constance, l'innovation, dans le bon secteur.
L'image.
Il te faut du marketing en plus d'une bonne bière. C'est pas assez d'avoir une bonne bière. Non. Et c'est là que la compétition...
Ça va avec le litrage de production. Là.
Le litrage?
Si tu passes un cap de production, là, tu te rends compte que, pour vendre tout ça, là, il va falloir du marketing, il va falloir une belle mise en marché, il va falloir un branding qui soit adapté, et puis il va falloir une...
Mais 4 hectos, c'est quand même beaucoup là, dans les nouvelles, c'est beaucoup en dessous de ça.
Attends, combien tu dis?
Ben 4, tu voulais...
4 hectolitres?
4 hectos.
Ah, okay.
Non, t'as juste mal entendu. Okay. Non, je pense que la moyenne des micros couvrant en ce moment, ça doit être 10 BBL. Tu sais, 1100 litres, on va dire.
Ouais, 10 BBL, c'est bon pour un brewpub qui roule.
Voilà, ça. Je parle d'une petite micro en ouverture, là, tu vois.
Tu veux faire de la commercialisation, tu vois, du 15, 20, 30.
Voilà, ça. Mais ça dépend. Tu sais, si t'as 10 BBL, puis t'as 8 vaisseaux, ce volume de production, il va falloir que tu le distribues, là.
Ah, ben oui. Avec un 10 baril, tu peux être capable de faire du litrage. Oui.
C'est sûr.
Bon,
je parle pour moi, là, tu sais.
Mais je comprends, mais c'est là que ça devient intéressant de savoir c'est quoi vos trois expériences différentes, parce que clairement, vous êtes trois microbrasseries différentes, vous avez une approche différente, vous avez des bières différentes. C'est là que j'ai vraiment envie de faire un espèce de tour de table un petit peu plus profond. C'est quoi vos trois approches différentes? Vous avez trois microbrasseries, vous avez une, je pense, la première microbrasserie de Québec. Vous avez une microbrasserie qui est très en vogue, qui est très impliquée en tout cas dans ce festival-ci. Puis vous avez une microbrasserie qui est arrivée un petit peu plus récemment. C'est quoi vos approches? C'est quoi vos défis? C'est quoi vos bières?
Je peux commencer?
Ouais, certainement. Vas-y. Alors, t'es en plein milieu.
Moi,
en fait.
Je pense que...
T'es vraiment bien situé, t'es en plein milieu.
Je pense que pour moi, à l'heure actuelle,
approche-toi
une microbrasserie en démarrage qui fait de la bonne bière, qui fait un produit qui est reconnu, qui est bien placé, qui est bien noté, que les gens aiment, le défi, ça va être le cash flow. On ne va pas se le permettre.
C'est pas assez de faire de la bonne bière, c'est ça?
Non, c'est ça. Mais c'est que, tu sais, on est sur un marché où que le jour où tu achètes ta céréale et le jour où tu vas récupérer l'argent, c'est 80 jours qui va se passer là.
80 jours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 80
jours. C'est 80
jours.
Hein.
C'est plus que ça.
Oh, non, c'est
non,
ça.
Une tornade, un ouragan, une mauvaise averse.
Ma paroisse, là, tu sais, c'est une moyenne. Là. Mm. Et 80 jours, c'est long. Donc, il faut que tu en sortes des produits. Puis, il faut que ta qualité soit là pour que la machine se mette en route et que ton cash flow soit là à toutes les lundis pour faire tes commandes, payer tes employés. C'est, puis, un marché qui est comprimé, qui est très concurrentiel, où tout a explosé et puis tout le monde essaye d'avoir le même prix pour avoir sa place sur le marché. Tu ne peux pas dire demain, je veux plus d'argent, je vais monter ma bière d'une pièce. Non, non.
Mais moi, je me demande...
En ce moment, on est plus à je veux plus d'argent, je vais la descendre d'une pièce. Enfin, ça joue encore sur ton cash flow.
Vous, votre nom, c'est Nano Cinco. Quand je dis nano, je pense vraiment autre mot pour micro. Je me dis ambition de brewpub local. Est-ce que je me trompe?
Même pas. Moi, nous, c'est historique, notre nom.
Oh,
en fait, Nano Cinco, ça part que nous, on est des nano-brasseurs à la base, des brasseurs amateurs. Tu sais, on a été 10 ans dans notre cave, dans notre garage, à brasser de la bière maison, on va dire. Là. Puis, on était une nano-brasserie.
Ouais.
Et donc, là est venu le nano. Cinco, c'est juste mon chien qui était tout le temps dans la brasserie. Et puis, on avait une page Instagram quand on était nano-brasseur. Et puis, ça s'appelait Nano Cinco. Puis, quand on a commencé à... Tu sais, ça a collé. Les noms, ils ont connu comme ça avant que le projet naisse. Donc, ça, naturellement, là, on est parti sur ce nom-là.
C'était le chien. Les gens aiment les chiens. Les chiens aiment les gens. Le chien est le meilleur ami de l'humain.
Et les chiens aiment manger du mash aussi.
Ah, il y a ça aussi. Mais tu sais aussi qu'il y aurait un autre engouement, que ce n'est pas juste sentimental. Mais là, après ça, il y a aussi le pub Inox. Vous êtes sur la Grande Allée, hein?
Oui.
Vous êtes la première microbrasserie de Québec, c'est ça?
La première microbrasserie à Québec qui a vu le jour dans le vieux port de Québec, sur la rue Saint-André.
Vous avez dit, OK, au début, vous étiez sur la rue Saint-André,
puis Saint-André, quand ça voyait le jour en 87. Moi, je rentrais là en 90.
90?
En 90, je rentrais là comme un serveur, comme barman.
Ça fait 23 ans, ça, là.
Oui, ça fait peut-être plus, même.
Il y a de l'histoire dans ta voix et dans ton regard quand tu dis ça.
Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, fait que j'ai travaillé à leur service. Et ça n'a pas été long. Ça a pris quelques années que je rentrais dans la brasserie.
Parce qu'est-ce qui t'a attiré là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans
ben, c'était une microbrasserie. Puis moi,
t'aimes la bière.
J'aime la bière. J'étais en train de faire mon bac à l'Université Laval. Rien, pas rapport en art visuel.
En art visuel? Oui, oh,
ouais,
OK.
Ouais, art plastique à l'Université Laval.
Tu brassais-tu maison avant?
Je brassais maison. J'avais commencé à brasser maison. Toi, hein? Mais on a tout je suis rentré à l'inox avant de devenir un brasseur maison. Fait que je me suis foutu le nez dans la brasserie avant d'être capable de brasser dans la maison chez nous.
Sérieusement? Oui. Ah, hey, c'est le contraire, c'est généralement. Il y a tellement de brasseurs qui ont commencé à jouer dans leur cuisine, dans leur condo, à faire des mous.
Non, moi, j'ai
mais pas c'est le contraire. 33 ans.
Hein? Oui, effectivement.
Il y a 33 ans, c'était dur d'avoir tous les ingrédients.
Comment trouver une poche de grains?
Non, c'est ça,
c'était nouveau. C'est un phénomène qui était nouveau au Québec.
Pas
on était en retard de 10, peut-être 15 ans au moins sur les Américains. Mais au Québec, c'était un phénomène qui était nouveau. On partait, l'inox est parti en 87, dans la même année que le Cheval Blanc avec Jérôme Denis, qui partait sa microbrasserie à Montréal.
Le Cheval Blanc, c'est très tôt, là, on est dans les 20 premiers c'est
à la même année. Le Cheval Blanc est parti en 87, en même temps que l'inox, quelques mois avant.
C'est quoi les numéros de permis, mettons, que je serais Pierre Clermont?
C'est brasseur artisan. Mais il y a eu des brasseurs, des permis industriels qui sont partis avant ça.
Juste pour être bien pour qu'on on place ça dans le bon contexte, là, parce qu'on est vraiment dans les premiers permis. Le premier permis, c'est minimum 84-85.
C'est 87, c'est 001, c'est microbrasserie Le Cheval Blanc. Moi, j'ai le 002.
C'est ça.
Deuxième de tout le Québec.
Mon 002, c'est mon numéro de permis.
Sérieux, mais est-ce que
mes brasseurs artisans? Mais pas brasseur industriel.
Okay.
C'est un AB. C'est un brewpub. C'est un permis de brewpub qui est limité à vendre sur place. Il y en a eu d'autres avant. Je pense que c'est Lyon d'or qui est arrivé en premier.
Lyon d'or, puis Massawippi, je pense.
Oui, Massawippi. Ouais. Après ça, on a eu d'autres. Là,
c'est fou. Vous avez quoi, le 2 ou 3e permis?
02.
Wow.
02.
Vous êtes là depuis un méchant garder, bout.
Pour avoir la céréale à l'époque, ça devait être toute la croix et écoutez, la bannière.
Écoutez, l'inox, quand ça partait, ça brassait avec, ça brassait avec des concentrés.
Non, mais c'est vrai.
Ça arrivait dans les, gros 45 gallons de concentrés de malt.
Ouais. OK, OK.
Puis, ils ont commencé à brasser comme ça. Mais moi, quand je suis rentré en 90, donc ça faisait déjà 3 ans, j'ai vu l'avènement du brassage tout grain.
Mm.
Fait que l'équipement a changé, ils sont arrivés avec un mash-tun. Là, ils ont commencé à brasser au grain. Mais j'ai vu arriver le grain.
Comment, pour avoir le grain, fallait-tu aller au silo à Montréal, récupérer tout ça?
Non. Non, il y avait déjà des fournisseurs dans ce temps-là auxquels on avait accès. Breeze, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché.
Oui.
Puis tu avais aussi le grain canadien, Canada Maltage, qui ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché aussi. Mais je me souviens au début, c'était les produits venaient de chez Breeze.
Ouais. Mais Brice, en fait, c'est des pionniers aussi dans les concentrés, là.
Oui.
Donc, c'est pour ça que vous y allez peut-être naturellement.
Ouais. On a suivi avec eux autres au début. Puis après il y a eu l'offre de matières premières. C'est beaucoup amélioré.
Parce que je me souviens d'une histoire que la souche partait avec une grosse remorque, allait à Montréal, directement au silo, et allait récupérer du grain de Canada Malting, en grosse quantité. Mm-hmm. Pour casser un petit peu, puis pour avoir des meilleurs prix, et revenir brasser avec ça. Je trouve ça fou.
Ça, ouais.
Ben, je pense qu'on est rendu maintenant à parler de la souche. Je pense que c'est là où on est rendu dans la vie.
Mais pour retourner quand même en arrière, moi puis Mathieu, on parlait tantôt de... C'est drôle, on jasait même avant de savoir qu'on venait pour le podcast, puis qu'on serait avec Jean. On parlait de nos débuts d'amateurs de bière. Puis on parlait que nos premiers amours d'aller dans des pubs, c'est à la Barberie.
Et à l'Inox.
Puis au Linox.
Mais oui. C'est... aller manger un hot dog à l'Inox, au Vieux-Port, ouais. Et puis aller boire une bonne bière. C'était...
Exact.
Tu faisais ça le dimanche, quasiment. Non, mais c'était marrant. Mais non, mais c'était, jour c'était de genre une sortie. Genre, ouais. C'était genre, waouh, man, on a été à l'Inox dimanche.
Il n'y en avait pas.
Mais moi, je peux dire que moi, je viens de Québec. Puis je vis à
t'allais au marché du Vieux-Port, puis hop, t'allais à la Barberie ou t'allais à l'Inox. Je
ouais.
parle ça, tu sais, il y a 18 ans, on va dire.
Oui, mais on a, parce qu'on a été longtemps tout seul.
T'as eu la Corrigan, t'as eu la Barberie. Ouais.
Mais la Barberie est arrivée 10 ans, est arrivée en 97.
Puis vous étiez là
on
avant.
Était tout seul 10 ans à Québec.
Donc, Inox, Corrigan, Barberie.
Non, Barberie. Non, la Corrigan,
Inox, Barberie.
Oh mon Dieu, mais hey! Ce que je viens de dire a généré vraiment beaucoup d'émotions.
La Corrigan est aussi vieux que la souche, la Corrigan.
Sérieux? Peut-être un an de plus, 12 ans maximum.
C'est dans la même période.
Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un gars qui est natif de Québec. Mon expérience avec la possibilité d'une bière qui soit non commerciale, c'est-à-dire qu'il y ait du goût, c'était la Corrigan, après ça, c'était la Barberie, après ça, c'était l'Inox.
Fait que c'est beaucoup après, là.
Mais après ça, je vous ai rencontré, vous, la souche, au Festival de Chambly, toutes vos bières étaient extraordinaires. Puis après ça, j'ai jasé sur une espèce de tangente philosophique.
Ben, on s'est parlé à ce moment-là, c'est sûr, on s'en rappelle pas, mais
ben, ça a duré
c'est sûr
deux heures,
moi qui étais là.
Ça a duré deux heures.
C'était juste moi qui étais
là. Étant philosophe dans l'art, c'est sûr qu'à un moment donné, on parlait plus pantoute de bière. Mais ce que je me suis dit, c'est attention, le monde de la bière artisanale au Québec, c'est des gens qui sont passionnés, puis c'est compliqué, puis c'est... C'est pas facile. C'est pas juste de la bonne bière. C'est comme on disait tantôt. Il s'agit pas juste de faire de la bonne bière. Fait que c'est là que moi, je veux savoir, vous, la souche, là, comment ça a commencé? C'était quoi le concept? C'était quoi la vision? Parce qu'aujourd'hui, vous avez au moins deux brew pubs, vous avez au moins deux emplacements. Avoir une microbrasserie qui a deux emplacements dans un contexte de pseudo-saturation, de 324 permis, c'est quand même quelque chose. C'est quoi le concept de la souche? À la base, ça part de quoi?
Moi, c'est sûr que je suis arrivé rapidement dans l'équation, mais je suis pas un des fondateurs. Donc,
mais t'as une casquette, fait que t'as l'air à l'aise.
Oui, ben, messieurs, un an et demi plus tard, je suis rentré dans l'aventure, puis j'ai pas lâché depuis. Donc, je connais l'histoire quand même pas mal, mais c'est sûr qu'Antoine Bernatchez serait plus placé que moi pour dire vraiment les débuts, mais dans le fond, il y avait vraiment un intérêt pour la nature, c'était tout des biologistes, dans le fond, à la souche. Fait que, puis dans le fond, comme Antoine, ben, il y avait une terre. Au départ, tu rentrais sur place, ben, l'enseigne qui est encore là, c'est une souche qui vient de la terre Antoine.
Nice.
Les tables étaient avec des arbres qui venaient de sa terre aussi, qui avaient coupé
cool,
eux-mêmes. Même les planches aussi, il y en a qui sont encore à Limoilou, qui viennent de là. Fait qu'il y a vraiment... il y avait vraiment un côté terroir puis de nos racines, de notre forêt qui était là, oui, mais
oui.
Tu sais, ça peut paraître galvaudé parce que c'est sûr que c'est de quoi qui est un peu souvent mis au travers des microbrasseries, mais il était clairement là à l'époque, puis ça fit bien pour les microbrasseries, veux pas, puis je pourrais continuer, mais pour faire un parallèle, encore aujourd'hui, on aime beaucoup des bières à l'épinette, des bières Saint-Pain-Baumier. On l'utilise vraiment beaucoup. On a beaucoup d'ingrédients qui viennent du nord du Québec. On essaie le plus possible d'utiliser du 100% québécois maintenant. Ça reste quand même de quoi qui est présent. Fait que la souche, il y avait ça. C'était des tripeux de biologie qui voulaient essayer le plus possible ce qu'on avait autour. C'est sûr que il y avait une culture qui était assez foisonnante au niveau des États-Unis à l'époque. Fait qu'on faisait beaucoup de road trip dans ces coins-là, voir des Eddie Topper et compagnie.
Hashtag Nouvelle-Angleterre!
Exactement. Fait que ça, c'était la nouvelle affaire. Puis on l'avait pas dans notre terroir, t'sais, dans nos bières d'ici, c'était peu présent. Fait qu'il y avait de quoi à développer. Nous, une des microbrasseries, on ne se le cachera pas, qu'on aimait beaucoup du Québec à l'époque, c'était Dieu du ciel. Puis on fait partie de ces microbrasseries-là avec, c'est ça, Dieu, Donham, et j'en oublie peut-être deux, trois, tu sais, qu'on Burnham, faisait des sur-IPA, des bières sûres. Okay. Quand t'es venu à Chambly à l'époque,
ouais.
ben c'est sûr que c'est une des affaires. C'est sûr que c'était une des choses qu'on avait pour se démarquer. On avait un menu, on avait peut-être quatre bières sûres sur notre menu.
Et vous fallait le marché était tel qu'il fallait absolument une bière sûre. Sinon, mais ça allait pas bien.
À cette époque-là, il y en avait zéro. Il y en avait pas.
Ah.
Non, quand je suis venu la première année, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de bière sûre. Il y avait justement la saucisse d'été de Dieu du ciel, mais il n'y en avait pas des tonnes de bière sûre, pratiquement attends, zéro.
Mais moi, je suis curieux, là. À quelle année est-ce que tu retraces l'origine de la popularité de la bière sûre au Québec?
On ne dépasse pas même à 4 ans. Là.
Sérieux? Ça se fait nouveau.
Ben, que ça soit à
immense échelle. 2005.
Non, 2015.
Peut-être, c'est ça.
2015.
8 ans, peut-être vraiment à très grande échelle.
Puis de Caribou aussi.
Ouais, mais de Caribou, il faut en parler, Lillipop, là. C'est quand même des pionniers. La Lillipop est arrivée
peut-être 2 ans plus tard, moi, que je me souviens. Trois Mousquetaires aussi ont fait une sur IP à peu près dans le même temps qu'on a fait la note, la Gauze aussi.
La
Gauze,
ils faisaient la Berliner-Weiss.
On était quelques brasseries, tu sais, fait que. Mettons, en dedans de 2-3 ans, c'est ramassé, on était 10 dizaines à peu près qui en faisaient. Bref, nous, c'est une des choses qu'on a pu se faire reconnaître à l'époque.
Puis aujourd'hui, là, mettons, vous... Là,
encore, mais en fait, tout ça est à cause du fait que il y avait de la recherche, on cherchait des techniques. Le Sour Mash, on trouvait ça intéressant. Antoine, entre autres, il explorait là-dedans. Il avait lu là-dessus. On en avait vu un petit peu aux États-Unis. Puis moi, j'ai vu l'opportunité de ça. C'était comme, il faut miser davantage là-dessus parce que il y a plein de gens qui ne connaissent pas la microbrasserie. Ils boivent ça puis ils se disent, c'est bon de la bière. J'aime pas ça, la bière, mais ça, c'est donc ben, bon.
C'est ça. Ça a été un peu... Une échelle, un pont entre les gens qui buvaient de la bière puis des gens qui buvaient des cocktails. C'est d'avoir une bière sûre avec des fruits. Ça a été genre game changer. Hein.
Mais on s'entend qu'on n'a rien inventé.
Mais non.
Non, parce que Astérix, c'est vrai boire
mais
ça.
Oui,
hein.
La cervoise, bien sûr.
La cervoise, c'était ça.
Avec moins de contrôle.
Avec du gruit.
Voulez-vous qu'on parle de gruit? Attends. Parenthèse historique, là. Parce que c'est le temps d'une bière, malgré tout. Le gruit, c'était à la fois un ensemble d'aromates pour la bière et aussi un service de perception d'impôt sur les aromates sur la bière pour l'épiscopat, c'est-à-dire l'élite religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on n'utilisait pas le houblon de façon... on n'utilisait pas le houblon, point final, pour préserver la bière et ou comme amérisant.
On faisait des oreillers avec.
On dormait bien avec
On mettait du houblon dans les oreillers. T'es pas sûr? Voyons, non.
L'oreiller, c'est ça, ça bien garde, dormir.
Ça
garde,
Puis ça avait des propriétés calmantes.
Si
tu dormais mal dans le temps, ben, on préconisait du houblon, une tisane avec du houblon.
Ben c'est ça. La vue médiévale du houblon, c'est que... Ouais, c'est bon pour préserver, mais ça endort, puis c'est pas bon dans une bière parce que ça affaiblit le caractère mâle de l'homme. Littéralement, là, c'était ça, la vue du houblon. Puis après ça, il y a le concept du gruit qui est, OK, quand on fait de la bière au Moyen-Âge jusqu'à la peste noire, grosso modo, c'est qu'on prend la céréale, on fait mijoter ça dans un chaudron, on prend les aromates locales. Des fois, dans les aromates locaux, il y a des herbes hallucinogènes. Puis ça, c'est le fun en maudit quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la bière. Mais grosso modo, ça change après la peste noire parce que immédiatement après la peste noire, tu as la commercialisation puis le monde commence à faire des bières avec vraiment crissement beaucoup de houblon. Dès que le houblon arrive, il y a moins de femmes qui sont impliquées alors que c'est les femmes qui ont historiquement brassé la bière. Mais le gruit, ce qui est intéressant, c'est que tu as là-dedans des herbes qui ont des propriétés narcotiques ou hallucinogènes comme la myrte des marais, comme le genévrier. Le genévrier, c'est pas super psychédélique, là, on s'entend, c'est juste... Le genévrier, c'est une plante dont les propriétés sont très bonnes au niveau de la conservation.
De l'angélique.
Des choses comme ça, ouais. Mais dans le gruit, tu pouvais trouver des gens qui faisaient du gruit, c'est-à-dire de la bière artisanale maison avec l'équipement qui était disponible pour...
Parce que le gruit, c'est pas une plante. C'est pas du gruit.
C'est un concept. Le gruit,
c'est un ensemble de plusieurs plantes aromatiques.
Puis des fois, dans ces plantes aromatiques-là, tu avais des plantes qui avaient des propriétés psychédéliques. Oui, puis le monde buvait ça, puis tout d'un coup, il voyait le diable ou il voyait le dieu.
Parce que des fois, toute seule, la plante, non, mais conjointement avec l'alcool, là, a développé des propriétés narcotiques.
Puis c'est là qu'on s'en va dans un autre monde, parce que moi, je fais un parallèle avec le vin. Chez les Grecs, en Antiquité, on boit du vin qui est coupé avec de l'eau. Et pourtant, les Grecs, dans l'Antiquité, sont constamment inquiets de l'intoxication, de l'empoisonnement et de l'ébriété, alors que leur vin est coupé d'eau. Pourquoi est-ce que les Grecs, dans l'Antiquité, sont si inquiets de l'ébriété alors qu'ils boivent un vin qui est tellement coupé d'eau? La raison, c'est parce que leur vin, à la base, est épicé avec des aromates qui viennent de plantes psychédéliques comme du jusquiame, comme du datura, comme de l'herbe de Jimson. Des choses qui te font triper comme ça se peut pas. T'en prends des quantités infiniment petites, puis t'es en train de voir tes ancêtres dans un trip de LSD.
Ils en font plus de vin comme ça.
Non. Aujourd'hui, on fait des vins de 12%, puis on...
Maintenant, on fait des sours à la framboise.
C'est ça, ouais. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vous allez voir que peut-être que je vais trop loin, puis c'est correct si vous me dites que vous le savez pas. Mais je sais que quand on commence à brasser chez soi, des fois, on fait des expérimentations, puis on peut mettre tout ce qu'on veut dans son chaudron quand c'est pour réglementer. Qu'en est-il du cannabis?
C'est une plante aromatique, c'est une plante... C'est une plante résineuse, dans la même famille que l'houblon.
Oui,
ouais,
c'est ça.
C'est un cannabinacé.
Le chanvre est un cousin de la fesse gauche
du
houblon.
C'est la même famille.
Du houblon puis de la tomate.
C'est la même famille. T'as un plant mâle, t'as un plant femelle. T'as des propriétés aromatiques selon les cultivars. T'as un différent degré de THC, mais si tu veux juste avoir l'aromatique, tu pourrais t'en servir comme au même type qu'un houblon aromatique.
Y a-tu du THC dans le houblon?
Non.
OK.
Non.
Ça aurait été vraiment cool s'il y en avait eu. Non. Ça aurait été très intéressant.
Non, il n'y a pas ça.
Mais c'est quand même la même famille.
C'est la même famille.
Le houblon est une... Ben, disons-le, c'est une vigne. Ça pousse, ça monte, ça fait des fruits.
Oui, le houblon femelle. Comme le cannabis. C'est le plant femelle qui produit les cônes, les
c'est ça.
Ceux qui contiennent toutes les propriétés.
As-tu déjà, toi, goûté à une bière au cannabis?
Non.
As-tu déjà entendu parler de gens qui ont goûté à une bière au cannabis?
Oui, je sais que ça se fait.
Ça ressemble à quoi comme expérience?
Rien.
Je pense pas qu'il y a un buzz particulièrement, parce qu'il faut que ça soit brûlé pour qu'il y ait un buzz de la tête de cannabis.
Ben, faut que tu réussisses à extraire le THC par...
un brouillage,
C'est par chauffage.
Il y a peut-être un marché aux États-Unis là-dedans, mais moi, je pense qu'il n'y en a pas du tout au Québec. Là.
Non. Tu ne penses pas qu'au Québec, on est rendu à ce point où est-ce qu'on...
Jamais.
Il y a le fait que ce soit illégal.
Non,
c'est totalement illégal.
Quand c'est devenu légal, il y a une microbrasserie qui avait essayé d'en populariser un et ils se sont fait vite revirer.
Tu pourrais en faire au chanvre si tu as zéro THC. Mais à partir du moment où tu as du THC mélangé avec l'alcool, ça passe
pas. Il faudrait que ça soit 0-0-0. Dans le cadre d'un gruit.
Allez-y, continuez, je veux absolument aller aux toilettes.
Non, vas-y.
Mais vous continuez pas.
Bon.
On arrête de parler de oui.
On peut arrêter de parler de gruit et de oui.
Du gruit. Oui.
On parlait de que ça va attirer une nouvelle clientèle.
Oui.
Tu parlais au début, Mathieu, de nous, on ne se met pas de limite sur ce qu'est une bière, etc. Puis au niveau de la smoothie, là-dessus, on se rejoint.
Oui. Ouais.
Puis moi, je suis bien d'accord avec des gens qui vont dire « c'en est pas », je suis moins pour ça », puis c'est bien correct.
Mm.
Mais par exemple, pour faire le parallèle, les smoothies, il y a tellement de gens présentement, qui découvrent la bière avec ça. C'est,
ça ouvre le marché.
En fait, c'est un gros plus pour cette industrie-là. Parce que tu as plein de nouvelles personnes qui n'auraient jamais voulu boire, essayer. Là, ils ont l'impression de boire un prêt-à-boire. Mais là-dedans, tu peux petit à petit rentrer des pistes de levure, un petit peu de houblon, du grain.
Le sens inverse, là. Smoothie, bière sûre aux fruits, bière sûre... IPA sur, IPA, et puis, puis on en revient à la bière blonde, hein, à la
exact.
Fin.
Exact!
Hein, c'est mais c'est juste pas le même chemin que les gens ont pris bah, il y a 20 ans, quand ils ont commencé à boire de la bière, ou il y a 30 ans, où tu partais de la blonde et puis tu montais comme ça pour découvrir. Là, je pense que ça s'inverse, mais c'est la chance, je pense, du croisement entre le fruit et la bière. Hein, parce que la bière sûre, comme on dit, c'est une bière sûre comme ça, c'est cool, mais c'est plate. Tu rajoutes de la framboise ou un truc, boum, là, ça t'ouvre un marché, une nuance que tu n'as pas avec une bière blonde. Là.
Le problème, c'est que ce qui a été véhiculé, puis il y a eu... C'est dur à contrôler parce que tu arrives avec une purée de fruits qui est fermentée, puis si elle n'est pas complètement fermentée, eh ben, c'est un produit qui devient totalement explosif. Oui, il va être évolutif, mais jusqu'à quel point?
Ah non, c'est sûr.
Puis c'est tu peux avoir des croisements de fermentation, des c'est très aléatoire. C'est
là encore là, par exemple, ça l'a poussé des microbrasseries à évoluer le système plus rapidement parce que, dans le fond, ce n'est pas un problème qui est isolé à ce style-là. Ce
n'est pas un problème qui est ingérable. Non, non, non. C'est, je vais peut-être plus pasteuriser mon moût. Je vais utiliser des fruits qui sont aseptisés. Mm-hmm. Et puis, tu sais, les risques diminuent après... vraiment, vraiment beaucoup, là.
Je vais contrôler davantage aussi. Non, c'est ça. Je vais
après, qu'est-ce que tu décides de
regarder l'évolution de mon produit.
Est-ce que je décide de distribuer ce produit-là, de juste le vendre à la brasserie, puis de former ta clientèle, leur dire, regarde ça, oh, faut que tu le gardes au frigo, et puis... Mais c'est sûr que l'évolution du marché amène des nouveaux problèmes. Tu sais, et puis ces problèmes, c'est des problèmes qui sont réglables. Comme je pense que depuis la nuit des temps, c'est ça en fait. Comment gérer un problème et puis ton produit il perdure dans le temps et puis voilà.
Ben c'est là qu'il y a
des vins qui refermentent, ça existe hein, aussi beaucoup là. Des vins rouges là, boum, une refermentation dans ton vin, ton lot il est.
Les cidres,
Ouais, mais c'est là les sulfites et compagnie. Mm.
Et nous on n'en met pas dans la bière.
Non. Non, tu veux
c'est
pas
une décision de partie ou pas de sulfite.
Mais tu as des techniques qui peuvent ne convenir à ne pas utiliser de sulfite. La pasteurisation,
c'est le secret. Si tu veux que ton produit perdure dans le temps.
Si tu veux distribuer, puis si tu veux garder ça, un produit ça, en tablette, on va dire, tu n'as pas le choix. Là. Nous, on fait beaucoup de smoothies, je ne pasteurise pas. On attend les fins de fermentation, on ne sert que de fruits qui sont aseptiques. Mm-hmm. Et puis, c'est une gestion de notre clientèle.
Et tu conserves au froid.
Voilà, conserver au froid. Et puis, toujours. C'est en petit volume. C'est, on les vend, là, ça fait gling, 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 gling. La porte qui s'ouvre, ça se vend. Puis, on n'a jamais eu un retour.
On s'entend aussi que la microbrasserie, les microbrasseries au Québec là, qui pasteurisent, j'ai assez de main pour les compter. Là. Il n'y a pas beaucoup de produits de microbrasserie qui sont pasteurisés.
Ben, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas tout à fait sûrs de comprendre c'est quoi la pasteurisation, ça serait bien que tu explicites un peu ce que ça veut dire.
Tu viens réchauffer ton produit jusqu'à un certain degré pour faire en sorte que ça va tuer toutes les bactéries ou les micro-organismes qui sont dedans. Fait que ça tue tes levures. Fait que le produit, il devient stable. Une pasteurisation, que ce soit pour la bière ou peu importe n'importe quel produit, tu l'amènes à un certain degré de température. Puis tu le scelles. Il n'y a aucun contact avec l'oxygène, donc il ne peut plus rien se développer dedans.
Mais il y a des enjeux parce qu'il faut
C'est parce que tu vas altérer. À partir du moment où ton produit est pasteurisé, il ne peut que se dégrader. Il ne va pas maturer. Il ne va pas évoluer.
Est-ce que ce qui est implicite là-dedans, c'est que...
Mais il va être stable.
Pour évoluer puis s'améliorer, il faut qu'il y ait d'autres bactéries qui fassent du travail?
Oui.
En même temps, si tu as une stabilité... T'sais, c'est une smoothie comme nous, dans le fond, on fait la pasteurisation. Mais on fait une flash pasteurisation. Ouais. Dans le fond, c'est un passage à chaud, très rapide. Dans le dans le fond, on a fait beaucoup, beaucoup de tests. À, on est pratiquement peut-être la microbrasserie qui a le plus évolué puis avancé à ce niveau-là, je dirais, pour la fraîche pasteurisation. Puis on se trouve à dégrader le moins possible le produit. C'est vrai que tu n'auras pas de refermentation. Donc, si tu vas arriver, mettons, avec une bière brettée, que tu vas rajouter des levures, tu vas vouloir, mettons, qu'elle évolue dans le temps, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, des fois même plus, elle va continuer à évoluer. Mais ce type de produit-là, c'est pas ça le but. Puis, en la pasteurisant, ce qu'on s'est rendu compte, on va peut-être la neutraliser dans un sens, mais le déclin est extrêmement lent. Ben oui. Parce qu'en plus, dans ces produits-là, c'est rempli d'antioxydants.
Ouais.
Donc, moi, je suis vraiment étonné parce qu'on le fait fréquemment. Nous, on regoute, on a des systèmes de contrôle qu'on regoute tout le temps nos produits pour voir à quel point ils évoluent bien. Des fois, il y a des produits qu'on penserait qu'ils t'offraient plus longtemps, qu'ils t'offrent moins. Mais les smoothies, de ce qu'on pense, c'est des produits qu'il faut consommer extrêmement rapidement. Mais s'ils sont bien contrôlés, mettons, pasteurisés, que tu as un système efficace, là, c'est des produits qui tiennent extrêmement longtemps. Moi, j'ai des smoothies chez moi qui ont plus qu'un an. Puis sérieusement, là,
tu serais
étonné. Je t'en donnerais deux. Je suis pas sûr que tu serais capable de savoir c'est lequel. Température cellier.
OK, c'est bon.
Ouais,
mais le marché a tellement évolué, on va dire. Ceux qui vendent les brasseries, des smoothies en distribution, 80% sont pasteurisés. On va se le dire.
Ben, distribution, si tu fais pas ça, t'es irresponsable. T'es
pourquoi t'es irresponsable? Non, ben, mais c'est pas absolument évident pour les gens qui nous écoutent.
Pendant le transport, on va dire, de ton distributeur à l'entrepôt au client, la fermentation est repartie. Mais il y en a beaucoup de smoothies sur le marché. Là. Donc,
les smoothies de bière, il faut s'entendre, c'est quelque chose de plus en plus populaire.
Je pense pas plus en plus, c'est quelque chose de populaire, tout simplement.
Ça augmente pas tant, mais c'est quand même populaire.
Non, il y a un marché là, pour ça. Là. Mm-hmm. C'est pas un marché qui explose comme les prêt-à-boire, mais c'est un marché qui est là, qui s'est fait dans les 5 dernières années. Là.
Mais ça m'amène dans un autre domaine vraiment de discussion qui est comment survivre par rapport à l'inflation puis la compétition dans la microbrasserie. On a la IPA. Il y a de la IPA pour tout le monde. C'est la bière qu'il faut faire, surtout la IPA de Nouvelle-Angleterre. Mm. Beaucoup de microbrasseries font des smoothies parce que c'est quelque chose qui est très en demande. Après ça, il y a la bière sans alcool. Il y a de plus en plus de demandes pour une bière qui goûte la bière, mais dans laquelle il n'y a pas d'alcool parce que les gens sont de plus en plus sensibles par rapport au fait qu'ils consomment de l'alcool qui soit endommage leur foie, soit être une source de calories ridiculement élevée. Fait que, en tant que microbrasserie, nouvelle et moins nouvelle, avec autant de demandes de la part des clients pour quelque chose de santé, pour quelque chose de nouveau, comment est-ce que vous naviguez tous ces besoins qui sont différents, puis des fois quasiment mutuellement exclusifs?
On est d'un milieu qu'on aime ça essayer puis expérimenter. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Ça vous fait pas peur?
C'est stimulant. C'est ça que tu veux, en fait.
Voilà un nouveau défi. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive là?
Exact.
Puis moi, je le retournerais plus comme... C'est pas que les gens veulent des bières moins fortes en alcool ou plus santé. C'est qu'on va toucher un marché différent avec ces bières-là. C'est des gens qui ne peuvent pas boire d'alcool ou qui donc en boivent différemment, c'est tu grossis ton panel de clients là. C'est pareil qu'un smoothie. Il y a des gens qui supportent pas trop l'alcool, donc une Anno IPA, ça va les emmener dans quelque chose qui sont safe avec ça. Il y a des gens qui font beaucoup de sport, donc pareil, une bière légère, ça va les rassurer là-dedans. C'est des gens qui boivent pas de bière à la base là, tu sais. Donc c'est juste grossir ton panel.
Oui. Attends, ici on a un pichet là, je sais plus d'où vient ce pichet exactement.
Je pense que c'est l'inox.
C'est l'inox, ça. Ouais. Oh, attention, on a un micro. OK, on va l'avoir. Beaucoup d'actions ici ce soir. Je vais te redonner ça dans des mains confiantes.
Dans les styles à la mode en vogue aussi, là, il y en a d'autres. Tu parlais des New England, mais on remonte à quand même plusieurs années. Il y a un gros retour à des styles qui étaient mis un peu de côté. Là, dans le houblon, entre autres, il y a beaucoup de retours vers les West Coast IPA. Ouais. Clairement,
les lagers,
les gens redécouvrent le mal.
Retour au West Coast IPA. Moi, écoutez, je pense qu'on a besoin de faire un peu d'histoire là-dedans. Quand les IPA américaines émergent, les IPA américaines sont un phénomène de la Nouvelle-Angleterre. Et ensuite, il y a une réponse en Californie à la Nouvelle-Angleterre. Et là, il y a un de nos participants qui veut vraiment avoir un échantillon. Oui, ça y est. Ça. Voilà, c'est fait. Donc, quand la IPA américaine... Ah, voilà, deuxième, attention, là, la console. C'est-tu quoi? Ben oui, c'est parce que il y avait une proposition de service d'alcool au-dessus de la console dans lequel il y a genre 1091 boutons. Évidemment, c'était pas une bonne idée. Et la question qui se pose, c'est évidemment l'histoire de la IPA dans laquelle il y a tellement de géopolitique, de houblon, de politique, d'économie, puis de beaucoup de choses. Mais on va un peu tourner les coins ronds puis parler du début. Le début de la IPA américaine. C'est la microbrasserie, c'est en Nouvelle-Angleterre. Puis à un moment donné, il y a une révolution, il y a une contre-révolution. Ça se passe sur la côte ouest, hein? Sur la côte pacifique, en Californie. Savez-vous quoi? On va faire, nous aussi, des IPA qui sont intéressantes, mais on va mettre tellement, beaucoup plus de houblon que ça va être très, 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 très amer. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vécu l'évolution de la IPA? C'est-à-dire, la Nouvelle-Angleterre veut faire des choses à l'anglaise, mais avec plus d'Amérique dedans, puis plus de goût, puis plus d'agrumes, puis la Californie décide que ça va être plus de pain, plus de raisin, puis plus d'alcool.
C'est sûr que l'IPA, ça vient, c'est les Anglais, qui ont fait des IPA anglaises. C'est une bière qui était très houblonnée avec des houblons anglais.
Pour la conservation.
Pour la conservation. Ils étaient capables de supporter le voyage comme ça. Les Américains sont arrivés beaucoup plus tard avec leur interprétation de l'IPA, avec des houblons, avec des profils d'agrumes, de fruits tropicaux, de blablabla. Bla bla. C'est parti de la côte ouest. Après ça, ont enchaîné la côte est, qui sont arrivés avec des IPA beaucoup plus hazy, beaucoup plus troubles, avec là, beaucoup plus axé sur le fruit, sur l'aromatique, moins que sur l'amertume. Comme les West Coast étaient plus axés sur l'amertume. Et puis, avec ce côté-là, très, très voilé, qui est typique des New England IPA. Là.
La recirculation.
Oui, c'est quoi, à basse température, jouer avec les températures.
C'est quoi la recirculation?
Ben, dans le fond, c'est pas mal des alchimistes qui ont pas mal commencé cette technique-là. C'est que dans le fond, ils donnaient des puffs. Dans le fond, ils faisaient... Au début, c'était pas une recirculation. Il venait vraiment donner des puffs de gaz à l'intérieur pour venir remuer un peu le houblon.
Moi, je pense à.
Comment ils appellent ça? Des bombes de CO2. Quand tu mets du houblon dans une cuve en conditionnement, ton houblon va aller se déposer dans le fond de la cuve. Nécessairement, il va s'imbiber, il va aller décanter. Fait que là, puis tu ne veux pas injecter de l'oxygène dans ta cuve. Donc, tu vas faire des injections de CO2, mais de façon très vigoureuse pour forcer toute cette matière-là de houblon à redevenir en contact avec ton mou, avec ta bière.
Puis c'est de là qu'est né ce style-là.
Pour extraire le plus possible de goût et d'aromatique.
Donc, c'est un concept dans lequel, pour avoir le plus de goût agrumé puis le plus de houblon qui goûte le plus fort possible... mets le plus possible de dioxyde de carbone.
De goût. Tu veux le goût du houblon sans nécessairement avoir l'amertume.
Mais je pense que tout ça est lié aussi avec l'évolution des houblons. Là.
Oui.
L'évolution de la Yakima Valley, c'est des chercheurs derrière tout ça. Là. Ouais. C'est une manne d'argent. Hein.
Mais ça me fait penser.
C'est comment créer des houblons les plus en plus aromatiques.
Parler des houblons ici.
Les plus en plus aromatiques, les moins... Avec le des fois même des fois moins d'acide alpha, tu es capable d'en mettre plus, plus dans le Whirlpool, plus dans le kettle, plus dans...
Écoute,
c'est tout ça, c'est de l'industriel.
Et j'ai fait un épisode, il n'y a pas très longtemps, juste ici, pour le même festival des bières et des artisans de Québec. J'étais avec des représentantes de la Barberie et de Emily qui représentait la microbrasserie de Kanawaki. Et puis, ils m'ont parlé de du houblon Sabro. Et ça avait l'air important. Puis moi, j'étais complètement perdu là-dedans. Je me demandais c'était quoi le houblon Sabro.
C'est une variété. C'est une variété parmi tant d'autres.
Oui, c'est ça.
Mais mon impression après cet épisode, c'était que beaucoup du succès de la IPA de la Nouvelle-Angleterre était dû à certains types de houblons agrumés qui venaient de la Nouvelle-Zélande. Et peut-être que je me trompe.
Non, pas nécessairement.
Non, pas nécessairement.
Il y a un marché maintenant. Il y a un marché sur les IPA de la Nouvelle-Zélande. Mais le Sabro est un houblon qui divise.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi le Sabro?
C'est quoi le Sabro? Avant même qu'on en parle, c'est quoi
le Sabro? Pour moi, le Sabro, c'est juste l'évolution. On vient tout le temps à la même chose. À l'évolution de l'agriculture sur les houblons.
Mais c'est quoi le houblon Sabro? C'est qu'on arrive maintenant à
aller tellement loin que tu peux avoir des goûts qui sont plus d'agrumes, qui sont complètement différents, plus tropicaux. Tu vas avoir des goûts qui vont aller sur la pêche, des goûts qui vont aller sur la coconut, des goûts. Donc, tout ça, c'est que tout est dans la recherche, là. C'est complètement fou.
Mais
donc,
maintenant, c'est que le houblon n'est plus Sabro, le houblon. Ça goûte la pêche?
Le coconut,
HBC 10-19, par exemple, là, ça goûte
parce
vraiment la pêche.
Parce qu'il y a des gens aussi fous avec le houblon qu'il va avoir des brasseurs avec la bière.
C'est toute une émulsion.
Le houblon se développe, le houblon se développe.
Et l'IPA se développe.
Ils vont développer des profils, puis en parallèle avec l'IPA, c'est sûr.
C'est ça.
Le
puis
plus
sont
étonnant,
capables d'isoler,
oui.
Maintenant, ils sont capables de l'isoler, certains composés du houblon, qu'on puisse l'utiliser sous différentes formes. C'est plus juste un houblon en granule ou en cône. C'est rendu maintenant des extraits, c'est rendu des distillats, c'est rendu... C'est un marché.
C'est cryogénisé.
Les spiritueux vont utiliser des essences de houblon.
On revient en pote, en fait. Ouais. C'est comment on fait du hash en mettant, par exemple, des alcools avec de l'eau. Ils font la même chose, ils vont extraire les propriétés phénoliques des houblons.
Des fois, c'est que tu vas avoir tout le côté aromatique du houblon, mais sans avoir le côté végétal.
Ouais,
c'est ça qui arrive. Au départ, on utilise, mettons, juste des cocottes. Mm. Ben, tu mets une immense quantité de cocottes d'houblon. Mm. Ben, veux pas, tu vas avoir un autre
une
goût végétal que c'est pas ça que tu recherches.
Puis une grosse perte.
Tu veux faire un IVS, IPA, mais tu veux l'avoir.
Par exemple, il y a Freestyle Hop à Nelson, en Nouvelle-Zélande, qu'ils ont sorti le Sub-Zéro. Et c'est fait et c'est marrant parce que c'est fait aux États-Unis. Ça vient de la Nouvelle-Zélande, mais c'est fait en Californie.
Super.
C'est pas en Californie, mais aux États-Unis, en Caroline du Nord. Et c'est vraiment comme une huile de pote, on va dire, extraite avec de l'alcool. Et un litre.
Ça, c'est ma rouge.
Et un litre de Sub-Zéro, de Hop Kiff, ça représente 20 kilos de houblon sans aucune amertume. Donc, ton dry hop, tu vas mettre 2 litres de hop kiff et tu n'as aucune perte dans le fermenteur parce que le produit, il se dissout à 100% dans la bière.
Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est quoi les implications pour le consommateur et pour le brasseur?
Le consommateur, c'est du goût. C'est du goût frais, pur.
Ouais.
Et puis, pour le brasseur, c'est qu'il n'y a aucune perte. Au mieux de faire 100 litres de perte de purge dans ton fermenteur, tu en fais 0. Imagine-toi 100 litres, ça fait combien de bières en plus?
Mm-hmm. Ben moi, je pense
100 litres, c'est un minimum.
On a parlé du mot Nielsen, je pense Nielsen a plusieurs reprises déjà. Mm. C'est quoi l'avantage du houblon Nielsen Sauvin par rapport à beaucoup d'autres?
Il n'y a pas d'avantage, c'est juste des goûts différents.
Ça goûte juste plus quoi?
Les avantages, ça va être comment la forme du houblon va être. Est-ce que c'est Cryo? Est-ce que c'est CGX? Est-ce que c'est Lupo Max? Mm. Est-ce que c'est Hop Kiff? Est-ce que c'est Spectrum? Est-ce que c'est... C'est là que tu vas voir comment il va être pelletisé ou comment il va être formé, on va dire. Là, les avantages, ça va être la perte dans le fermenteur. C'est toujours une histoire de perte, la brasserie.
Parce que tu fais toujours des pertes.
Et de vitesse d'exécution.
Ouais, c'est ça, exact.
C'est que ça se dépose rapidement.
Ça veut dire quoi pour toi, la vitesse?
Si mettons ton houblon, il reste en suspension plus longtemps puis il se dépose moins rapidement, tu perds en rapidité.
Que ta cuve soit toujours pleine de bière. Là. Donc, plus elle est pleine tout le temps, et plus tu fais de l'argent.
Moi, j'ai des questions. J'ai trois questions. Puis c'est la même question pour vous trois. Vous avez trois microbrasseries. Vous avez trois objectifs, trois visions. C'est quoi le principal objectif, le principal projet pour chacune de vos microbrasseries? Je commence avec toi, mon ami.
Ben, moi, je pense que c'est l'optimisation. C'est l'optimisation des coûts pour être rentable puis de rester, pour être capable de rester compétitif, puis de suivre le marché, de suivre les tendances du marché, puis la qualité, le service. C'est...
Conserver la qualité puis le service.
Oui.
Ça, c'est crucial.
Oui, définitivement. Parce que tout le monde aujourd'hui fait de la bonne bière. On est tous capables de faire de la bonne bière. Il y a probablement un brasseur maison chez eux qui fait de la meilleure bière que moi aujourd'hui. Mais il n'y a pas ses tablettes.
C'est la machine derrière.
Hein? Ouais?
C'est justifier l'accès au marché.
L'accès au marché, puis garder ta qualité, ton service.
Puis moi, je trouve que ce qui est marrant avec ça, c'est que ça fait 40 ans que l'Inox existe. Moi, ça fait 6 mois. Et j'ai exactement les mêmes défis pour le futur.
C'est-à-dire
exactement la même chose. C'est optimiser, parce que tu optimises, tu fais plus d'argent, descendre tes coûts, garder ta qualité, optimiser pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de qualité de produit, puis pour faire de la meilleure bière, et puis pour que tes clients soient fidèles, et puis découvrir de nouveaux clients parce que tu as optimisé. C'est, on est tous dans le même bateau. Là.
Ben exactement.
On est dans un marché qui est serré, qui est difficile, où si tu n'optimises pas, tu ne pourras pas performer comme tu le rêves.
Faut éliminer les pertes, mais ça ne veut pas dire être en compétition avec son prochain.
Non, tu es en compétition avec juste toi-même et ton banquier.
Oui, le rôle du banquier ne pourrait pas être suffisamment exprimé ici. Il y a quand même une question d'argent. Est-ce que c'est aussi ce que la source ressent en termes de défis?
C'est certain que c'est une part importante pour toutes les microbrasseries. Nous autres à la souche, mais c'est sûr que l'exploration, c'est vraiment clé dans la microbrasserie. La plupart, mais nous, c'est vraiment de quoi qui est hyper présent au niveau des nouvelles tendances, mais aussi souvent, on fait beaucoup de recherches avec des ingrédients locaux, qu'on se dit, y a-t-il une façon qu'on pourrait l'extraire autrement? On peut-tu l'utiliser à différents endroits dans notre processus, dans différents styles aussi? Fait que vraiment, au niveau de la recherche, la qualité, constance, c'est sûr que ça, c'est clé. C'est surtout si tu veux être dans du marché de tablettes à grand volume, c'est encore plus clé que si tu es juste Brewpub. Brewpub, tu pourras pas arriver et dire c'est rare le monde qui va faire ta batch que tu as faite il y a 2 mois, il y avait une petite différence. Non, tandis que tablette, à un moment donné, c'est vraiment clé. Nous, dans le fond, moi, je mets beaucoup d'emphase sur garder des produits frais. Fait qu'il y a vraiment un gros enjeu, même au niveau de toute l'industrie brassicole. C'est un des enjeux majeurs. Faut être capable d'avoir un contrôle sur une force de vente. Que t'es partout au Québec, c'est rare les microbrasseries qui ont cette possibilité-là. Nous, on a la chance de l'avoir, mais s'il y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là, d'avoir être sûr que partout au Québec, ton produit, il est encore frais, puis il n'est pas rendu à un stade qui commence à décliner. Ça, c'est toi qui est vraiment important. Fait que tu l'as soit avec la force de vente, mais aussi avec beaucoup de contrôle à l'interne et de l'expertise. Nous, on a un gros laboratoire. Ben, on parlait tantôt de la pasteurisation, mais ça, c'est de quoi vraiment qu'on va continuer à travailler. Parce que pour nous, c'est un enjeu. Puis je pense que même pour nous, mais même pour l'industrie, on aime ça. Puis on a fait des panels à l'Association des microbrasseries, entre autres, des fois, sur ces sujets-là, pour être gagnant, même en tant qu'industrie, parce qu'en bout de ligne, on est aussi faible que le maillon le plus faible. Veux pas. Fait que oui, on veut tirer notre épingle du jeu, mais sérieusement, la souche, elle veut vraiment que l'industrie agrandissent, puis on est là pour aider le maximum qu'on peut. Là. C'est ça. On veut que les microbrasseries du Québec grandissent, puis tu sais, c'est le fun quand tu as des Français, tu as du monde. J'ai tout au Nouveau-Brunswick dernièrement qui me disent hey, au Québec, j'ai été, là, vos bières sont malades mentales. Là. T'sais, genre, vous êtes une coche ou deux au-dessus. Ben, ça, c'est stimulant, puis faut pas perdre ça.
On se défend très, très bien. Ouais. En tant que microbrasserie au Québec, on est une destination bière, puis on enclenche plusieurs.
Ah oui. Puis il y a toujours une soif d'exploration. C'est, par exemple, Nano Cinco, là, on fait 3-4 bières nouvelles par semaine. On ne fait pas de repeat. C'est
beaucoup. Ça ressemble à la souche aussi.
Ouais. Toutes nos bières, ils sont différentes à chaque fois. Là. Colimaçon, là, on ne la fera peut-être jamais. Là. C'est, donc, c'est d'explorer, de travailler. Et puis, sur l'international, c'est rare d'avoir un marché stimulant. Moi, vous l'avez entendu, hein. À la base, je suis français. Je suis néo-québécois, on va dire.
Ton accent te trahit.
Mais quand je retourne en France... Mais
ta casquette t'a représenté.
Je suis rentré en France au mois de juin. Puis quand je leur parle du marché au Québec, puis des SKU, des nouveaux SKU, de l'exploration, ils ne comprennent pas. Ils me disent « Ah non, mais... Ah ouais, mais tu fais tout le temps des bières différentes et tout. » Et puis, tu essayes toujours... Tu sais, eux, ils pensent que la Henken, là, qui est toujours pareil, et puis la Stella Artois, là... C'est ça de la bière, là. C'est ça que quand des étrangers arrivent au Québec puis se rendent compte où on est rendu, ou en Amérique du Nord, j'ai envie de dire, ils font « what ». Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là.
Mais c'est là qu'on est rendu à ce point final de notre épisode où est-ce que vous trois, avec vos expertises différentes, vous êtes prêts à dire à nos auditeurs qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent par rapport à la bière de microbrasserie. Mathieu, qu'est-ce que les Français, les Belges et les Québécois devraient savoir par rapport à la bière artisanale? En 30 secondes.
En 30 secondes, qu'est-ce que les gens doivent
savoir? T'as le droit d'aller à 60 secondes. C'est quoi? Mais, je te donne 60 secondes.
Mais en fait, on l'a résumé dans toute la discussion. Là. C'est que la bière artisanale, on est des humains derrière tout ça. Tous différents. Tous avec des projets différents. Puis une connaissance et puis un amour pour la bière qui est différent. Mais à la fin, là, c'est de la bière qui est dans la canette. Puis c'est de la bière que des humains ont mis son cœur et tout son temps dedans. Là. Ça reste un produit très humain, la bière. Mm-hmm. Puis je trouve qu'on le représente dans notre panel. Là. On est 3 brasseries complètement différentes, avec des objectifs différents, mais qui veulent faire évoluer ce marché-là.
Oui, moi aussi, je trouve la même chose.
Ça reste quelque chose de très terre-à-terre.
Malgré la différence des discours, il y a vraiment un grand thème rassembleur commun à travers les trois. Est-ce que la microbrasserie de l'Inox est d'accord?
C'est sûr que oui, tout à fait. Moi, c'est sûr que moi, j'ai un chapeau de brasseur artisan. Je suis en vente sur place, surtout. Le marché, pour l'avoir vécu avec une autre microbrasserie. Puis j'ai fondé la microbrasserie de l'Orléans aussi. Mais le marché de la tablette, je suis pas vraiment là. Moi, je suis vraiment... C'est mon service. C'est mon service à la clientèle. Je brasse pour mes clients qui viennent chez nous. Des fois, on va dire qu'on fait plus des bières de masse, mais en même temps, je sers la masse. Je m'adapte aux gens qui vont acheter ma bière. Le marché de la tablette, c'est une autre histoire. Le marché de la tablette, ce que je pourrais dire aux consommateurs, c'est favorise peut-être des points de vente qui gardent leur bière au froid. Parce que, comme on parlait tantôt, on parlait de pasteurisation, on parlait de stabilité de produit. Une bonne bière, elle peut être bonne, ta bière. Là. Si tu la gardes sur le dessus de tes compresseurs à frigo à 30 degrés, là, dans 3 semaines, elle est finie.
Ça marche plus pas.
Bonne. C'est plus bon. Fait que tes points de vente qui gardent au froid la bière, peut-être les privilégier eux autres, parce que la bière, c'est bon. Faut que ça se conserve au froid. Peu importe la bière, qu'elle soit pasteurisée ou pas, la bière, ça se conserve au froid. Si tu veux avoir de la bonne bière, c'est ça. Va-t'en ce qu'il garde au froid.
Dernière question de l'épisode, qu'est-ce que la souche en pense?
Ben, par rapport aux consommateurs, moi, ce qui m'a attiré, puis j'ai beaucoup d'amis proches de moi, que c'est devenu une passion forte. C'est drôle, j'en parlais tantôt avec Mathieu, mais un de mes grands amis d'enfance, Éric Lortie, à l'Impact, pour le nommer.
Monsieur.
L'impact, hey, ça me rappelle quelque chose, ça.
Mais on est parti du même point, puis des fois, il y a des goûts, entre autres, qu'on avait moins développés, qu'on connaissait moins, et la bière nous a ouvert à ça. Tu sais, veux pas, recul de... Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins ça, mais encore là, découvrir les amers. C'est quoi vraiment un amer? C'est où que ça goûte? Moi, le nombre de personnes que
j'ose... C'est correct que ce soit amer aussi, une bière.
Ils savent pas c'est quoi la différence entre amer et sûr. Ils ont aucune idée c'est quoi la différence, c'est où que ça va arriver dans ton palais. Qu'est-ce que ça représente? Ils ne le savent pas. L'acétique, toutes les sortes de fruits, qu'est-ce que ça peut amener?
La perception est tellement différente et puis tellement évolutive. Je pense que, comme pour souligner un peu ce que tu dis, c'est que dis pas que t'aimes pas ça. Tu vas voir, tu vas apprendre à l'aimer, puis tu vas peut-être l'aimer dans quelques mois.
Exact.
Parce que tu sais juste pas comment le comprendre.
Puis nous, la bière, dans le fond, ça nous a amené à devenir des épicuriens, puis à vouloir découvrir, puis à aimer plein de choses dans la vie. Puis je pense que c'est ça, les microbrasseries. Pas juste dans le goût, après ça, ça se reflète dans tout. C'est, dans le fond, on s'intéresse à tout, t'as pas de fermeture, t'essayes, puis à la longue, tu vas aimer, tu vas découvrir des nouvelles choses.
Et c'est ça le temps de bière. C'est le temps qu'on prend pour déguster les différentes bières qui existent à ce moment-ci de l'existence humaine et en même temps voyager à travers les géographies, les histoires, les cultures pour en apprendre le plus possible sur l'humain et l'humaine, en prenant évidemment le temps de prendre une bière. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
D'avoir été avec moi pour le temps de plusieurs bières, parce que dans mon cas, ça a été plus qu'une bière, plus qu'une consommation. Nous sommes en ce moment live.
On va se coucher tard.
Du festival dans lequel on se couche tard, des brasseurs et artisans de Québec au domaine des Mazerets. Il y a beaucoup de monde, mais probablement qu'il y a encore de l'espace pour plus de personnes. Fait que si vous avez le malheur ou le bonheur de nous écouter pendant que c'est live, allez-y parce qu'il y a une grande tente dans laquelle il y a plein d'artisans brasseurs qui ont de la bonne bière à vous montrer. Puis c'est tous des amis, puis ils veulent juste que vous ayez quelque chose de vraiment bon à vous mettre sous la dent. Donc allez-y, faites-vous des amis et surtout, abonnez-vous au temps d'une bière. Le temps qu'on prend pour parler de bière et de vous et de vos intérêts et de vos passions. On est sur Google Podcast, on est sur Spotify, on est partout, on est sur YouTube, on est sur un site internet, le temps d'une bière dans lequel on parle de prohibition avec les humoristes. Ne ratez pas ça, mais surtout, buvez de façon modérée et surtout, continuez à aimer la vie. On vous retrouve la semaine prochaine. Et là-dessus, je vous dis ciao.
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 Salut tout le monde. Yeah.